Au risque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous et bonjour à vous, Père José. Merci de me recevoir une fois de plus à Maritsou. Chers auditeurs, nous continuons notre lecture cursive de l'Évangile de Jean. Nous avons eu la fois dernière un long commentaire du chapitre 6, appelé habituellement le discours sur le pain de vie. Et au terme de ce discours, beaucoup de disciples, devant la dureté, l'étrangeté de ce discours, beaucoup de disciples abandonnent Jésus. Et puis, il y a cette scène absolument merveilleuse où il interpelle les 12 et où Pierre répond « Seigneur, à qui irions-nous ? Toi seul as les paroles de vie éternelle. » C'est une belle déclaration. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé en relisant tout ceci, c'est que dans le chapitre 6, il y a une chose à laquelle vous tenez beaucoup, Père José. C'est le mouvement descendant et ascendant. En effet, au verset 41 du chapitre 6, Jésus dit « Je suis le pain qui descend du ciel ». Et un peu plus loin, au verset 61 et 62, « Et c'est donc pour vous une cause de scandale ?» dit Jésus, « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ?» Jésus descend et puis Jésus remonte. C'est vraiment quelque chose d'important et c'est un peu une sorte de fil conducteur de tout l'évangile de Jean, Père José.
Dans l'évangile de Jean, ce thème de l'ascension est tout à fait dominant sans être jamais explicité. Et je crois même que c'est sur ce thème que se termine tout le récit avec la phrase de Jésus à Marie-Madeleine « N'essaye pas de me retenir car je n'ai pas fini de remonter vers mon Père ».
Vous avez l'habitude de dire, Père José, que le rédacteur de l'Évangile de Jean ne parle pas de ce qui lui tient le plus à cœur.
C'est ça, c'est très curieux, cette discrétion mystérieuse du rédacteur qui tourne autour de ce qu'il veut évoquer pour nous sans jamais le nommer ou la nommer explicitement. Par exemple, le quatrième évangile est fondamentalement eucharistique, les allusions à l'Eucharistie sont permanentes et pourtant jamais le rédacteur ne relate l'institution de l'Eucharistie. De même pour l'ascension. À diverses reprises, peut-être une dizaine de fois dans l'Évangile, est fait allusion à ce mystère de la remontée de Jésus vers son lieu propre, mais Jean ne relate pas le fait de l'ascension que les synoptiques vont évoquer.
Donc il y a des choses qui sont importantes et qui sont là entre les lignes, oui. Mais comme des lignes très fortes de la composition de cet évangile.
Je crois que le quatrième évangile ne peut être lu qu'entre les lignes.
C'est le livre des signes.
Le livre des signes et le livre du mystère. Il nous aide à entrer avec humilité dans l'entendement du mystère.
Je crois que ces paroles-ci conviennent à merveille pour tout l'Évangile et peut-être aussi au chapitre 7 que nous allons entamer. Je préviens simplement nos auditeurs que ce chapitre 7 est un chapitre difficile. Vous dites volontiers que dans ce chapitre, on a l'impression de mettre le doigt sur un cheminement hésitant. Et nous allons entrer dans ce chapitre. Il y a, et c'est intéressant, l'entourage sera certainement l'objet de notre attention. On verra toute une série de personnages qui apparaissent au long de ce chapitre, notamment les gardes, et puis à la fin, l'extrême fin du chapitre, on a Nicodème. Et puis il y a cette foule qui parle, un petit peu comme si l'auteur avait pratiqué ce qu'on appelle maintenant le micro-trottoir. On entend toute une série de réactions. Et puis il y a une série de thèmes qu'on rencontre chez Saint Jean. La recherche, où est-il ? L'heure de Jésus n'est pas tout à fait encore venue. Et puis, il y a le fait qu'il est envoyé. Et puis, on va retrouver le thème de la soif et de l'esprit. Tous ces thèmes-là sont un peu épars. Mais, Père José, pour structurer un petit peu ce chapitre, vous proposez un fil conducteur en trois questions.
Mais il me semble qu'au cours de ce chapitre émergent et s'entremêlent trois questions. La première, face à ce cheminement hésitant dont vous venez de parler, c'est la question, mais où est-il ? Où localiser Jésus ? Il chemine, et étrangement, il y a un va-et-vient de Jésus entre la Galilée et la Judée, auquel nous sommes intimement liés, je crois. Nous sommes entraînés dans ce cheminement hésitant. Et dans ce va-et-vient. Et puis, tout à coup, Jésus, qui avait d'abord paru rester à distance de Jérusalem, surgit dans le temple, où il est en train d'enseigner. Alors que tout à l'heure, on lui avait posé la question, mais montre-toi au monde, on lui avait invité, une question d'ailleurs perfide plutôt, posé par ses frères, Jésus avait paru se dérober. Et puis maintenant, le voilà tout à coup au milieu du temple, en train d'enseigner. Et là, cela fait surgir la seconde question, mais qui est-il et d'où lui vient ce savoir ? Comment connaît-il les Écritures ? Qu'est-ce qui nous garantit l'authenticité de sa parole ? Donc, qui est-il ? Ce qui permet à Jésus de réaffirmer « Mon enseignement ne vient pas de moi. » Donc, de s'effacer devant celui qu'il a envoyé. Jésus n'est que le témoin et l'écho de celui qu'il a envoyé. Et alors, cela amène la question de son autorité face à celle de Moïse. Jésus ne se réfère pas du tout à l'autorité de Moïse, mais à celle de celui qui est au fond de lui-même, à la source de lui-même, le Père qui l'a envoyé. Troisième question, donc après, où est-il ? Qui est-il ? C'est d'où est-il ? Et là, Jésus ne cesse de répéter, je ne suis que l'envoyé du Père. Et la seule légitimité dont il se réclame, c'est de pouvoir s'effacer face à la présence du Père que nous avons à déchiffrer. Alors, nous autres, nous sommes mêlés à ce cheminement hésitant, à ce questionnement incessant, où est-il, d'où est-il, d'où lui vient ce savoir ? Et Jésus nous donne comme réponse que si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si cet enseignement, mon enseignement, vient de lui, de celui qui m'a envoyé, ou si je parle à titre personnel. Alors, comment interpréter cette réponse ? Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura. Comment accueillir ce savoir et le laisser naître en nous. Et je crois que faire la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est laisser s'ouvrir en nous l'écoute secrète du cœur, l'écoute amoureuse d'une parole qui nous déborde.
On peut penser que Jésus se reçoit de son Père.
Il ne cesse de se recevoir. de se recevoir et de s'effacer sans cesse. Quand on s'adresse à lui, il se retourne et nous montre un chemin qui va au-delà de lui.
C'est finalement le contraire de notre orgueil.
Ah, tout à fait. Je crois que l'orgueil est le principal obstacle à la reconnaissance de Dieu. Pouvoir se dessaisir, accepter la démaîtrise de soi pour se recevoir et s'ouvrir à celui qui est notre source, c'est la clé du cheminement spirituel.
Nous sommes de nouveau au centre du secret de l'homme, c'est cette tentation de la maîtrise de l'autre notamment.
Tout à fait. Je crois que c'est le seul choix que nous avons à faire dans la vie, c'est choisir entre moi comme centre et l'autre auquel je m'ouvre.
Et c'est à ce point difficile, Père José ?
Je crois que c'est difficile jusqu'au bout.
C'est donc l'œuvre d'une vie ?
C'est l'œuvre d'une vie et d'une mort. Et certainement que la dernière phrase de Jésus sur la croix, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », c'est la clé de toute une vie. Pouvoir vivre en mourant à soi, en étant ouvert à l'autre qui jaillit à la racine de nous-mêmes.
Et c'est ainsi que nous pouvons réellement nous accomplir.
C'est un mot d'ailleurs important dans l'Écriture. Être accompli. Être achevé comme être d'amour. D'amour, d'ouverture, d'accueil, de découverte de l'autre au-delà de nous-mêmes.
C'est la découverte de l'autre dans l'étonnement et dans le surgissement. Je sais que le mot surgissement et étonnement, et surtout le mot surgissement, vous est très cher, Père José.
Je crois que c'est peut-être la meilleure traduction qu'on pourrait donner ou suggérer au mot mystérieux rendu par Yahweh. C'est celui qui surgit là où on n'attendait pas, l'inattendu. Dieu est irruption. Dieu est surgissement et irruption, et un surgissement qui nous entraîne dans son mouvement, dans ce mouvement d'ascension.
On peut dire d'ailleurs que dans ce chapitre-ci, Jésus est littéralement insaisissable. Nous allons y revenir un petit peu tout à l'heure. Plusieurs fois, on a l'impression que les autorités veulent se saisir de lui et finalement, son heure n'est pas encore venue. Donc nous sommes dans ce chapitre-là guidés par trois questions. Où est-il ? Qui est-il ? Et d'où est-il ?
Absolument.
Nous allons faire une petite pause musicale, Père José, avec Schubert, un extrait de son premier trio à clavier. Thank you. Sur RCF, nous continuons notre lecture cursive du chapitre 7 de Saint Jean. Le Père José nous a proposé trois questions pour trouver un des fils conducteurs de ce chapitre difficile. Jésus, où est-il? Qui est-il? Et d'où est-il? Alors, après une réflexion générale, revenons peut-être à la première question. Où est Jésus? En effet, on voit que Jésus va et vient. Il est littéralement insaisissable, à la fois au sens physique, mais on a l'impression aussi qu'il est insaisissable par la pensée. Sa pensée échappe continuellement. Et puis, très rapidement, se pose la question, d'où vient son savoir? Et il y a ce verset tout à fait intéressant. D'où vient son savoir? Comment est-il si savant, lui qui n'a pas étudié? Alors, Père José, donc, finalement, où est-il, ce Jésus insaisissable?
Mais, donc, je crois que, probablement même, l'intention de ce chapitre, c'est de nous mêler à ce cheminement hésitant, et de Jésus, et qui reflète le nôtre. Nous aussi, nous sommes malmenés dans ce va-et-vient qui déconcerte tous ceux qui l'entourent. Montre-toi au monde. Alors, il objecte que son heure n'est pas venue. Et puis, curieusement, dans le secret, il se faufile en Judée et apparaît, surgit brusquement dans le temple, en enseignant ce qu'il est. Il est un enseignant, un révélateur de vérité. Et c'est cela qui provoque, où est-il? On l'a cherché, le voilà tout à coup qui surgit, mais d'où vient ce qu'il est et ce savoir étrange qui lui permet de parler de la sorte? Et là, Jésus nous révèle avec insistance que ce savoir, d'abord, ne vient pas de lui, il se retourne et nous indique la source, qui est celui qu'il a envoyé. Jésus se situe comme l'envoyé, le révélateur, le reflet de la parole du Père. Et alors, à ceux qui se posent la question de la garantie de son authenticité, Jésus ne donne qu'une réponse étrange et qui nous interpelle, continue de nous interpeller. Qui veut faire la volonté de mon Père saura si mon enseignement vient de moi ou de lui.
Il invite donc le disciple à expérimenter quelque chose. Et ce n'est pas lui qui va donner la réponse, non. Mais il faut chercher la réponse.
C'est ça. Donc Jésus nous invite à entrer, lui dont on questionne le savoir, il nous invite à entrer dans un certain savoir, mais qui est un savoir fondé sur l'accueil, l'obéissance, la reconnaissance d'une parole autre qui vient d'autrui, qui vient d'un au-delà, et de nous-mêmes et de lui qui vient du Père.
C'est bel et bien la pédagogie de Jésus qui nous invite à vivre dans cette relation, oui, de filiation.
Jésus s'efface sans cesse. Chaque fois qu'on s'adresse à lui, il se retourne et nous entraîne dans un chemin d'ascension.
Mais ce qui me frappe aussi, Père José, c'est que Jésus, manifestement, a une aura, il a une autorité, il enseigne avec autorité et les gens sont très étonnés, d'une part, et il a en face une institution qui, elle aussi, représente l'autorité et résiste à cette nouveauté.
Il y a une institution et un savoir prétendu, un pseudo-savoir, mais fermé sur lui-même. Alors que Jésus oppose à cela une ouverture inconditionnelle à l'inattendu du Père.
Est-ce que c'est la grande image du nomade, Père José?
Ah, sûrement. Le nomade et le cheminant. Oui, ah, tout à fait. Nous ne pouvons pas rester immobiles dans notre suffisance. Nous sommes sans cesse entraînés vers un au-delà de l'immédiat de nous-mêmes, un au-delà indéfini. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de tout qui est né de l'esprit. La caractéristique de l'esprit, c'est qu'il nous déracine sans cesse de nos certitudes, de notre immobilité, de notre passivité, nous entraîne dans une perte de nous-mêmes et une ouverture inconditionnelle. Et ça, je crois que c'est très important de ne pas mettre de limite à la liberté de Dieu en nous.
Et alors, cette liberté de Dieu entre en confrontation violente avec une institution. On sent que l'hostilité grandit.
Ah, bien sûr. Mais l'institution semble garantir la sécurité, mais c'est une pseudo-sécurité. C'est une sécurité qui paralyse. Alors que le chemin de la foi est ce nomadisme permanent qui nous mène sans cesse au-delà de nos prises, de nos repères, de nos certitudes, un accueil à l'étrangeté de l'irruption de Dieu, mais un accueil.
Et donc, l'accueil à l'étrangeté, c'est que finalement, dans le courant de la vie, dans ce grand fleuve qu'est la vie, il y a du nouveau sans cesse.
Sans cesse. Mais Dieu est éternellement l'autre. Et donc, cette altérité nous surprendra et nous envahira sans cesse.
Et c'est ça qui peut susciter notre émerveillement, justement.
Ah, je crois. L'émerveillement, c'est la reconnaissance complètement ouverte de cette altérité.
Père José, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Et nous allons retrouver, pour faire écho à tout cela, nous allons retrouver le premier trio à clavier de Franz Schubert.
Magnifique.
Merci Père José et au revoir à tous, chers auditeurs.
Merci Pierre-Paul pour votre écoute si créatrice.
Merci beaucoup en tout cas.